La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernier moment de notre série consacrée à l'écrivain irlandais Oscar Wilde. C'est le portrait d'un homme libre que nous traçons depuis lundi dans la compagnie des auteurs, libre de penser comme il le souhaitait, d'écrire comme il l'entendait et de porter des tournesols dans les rues de Manhattan, de Londres ou de Paris quand cela lui chantait. Du dandy, nous avons parlé avec Daniel Salvatore Schiffer dans le panorama biographique en ouverture de cette semaine. Libre, il l'a été aussi au moment d'intenter un procès contre le père de son amant, procès qui va s'avérer désastreux et le conduire en prison pour homosexualité. C'est Charles Dantzig qui nous racontait cela mardi, en même temps qu'il évoquait l'exposition Wilde au Grand Palais à Paris. Libre enfin d'évincer le bien pour lui substituer le beau, ce n'est pas exactement permis par la morale protestante, mais qu'importe. De l'esthétisme, nous parlions hier avec Tsvetan Todorov, tandis qu'Anatole Tomczak venait nous raconter sa nouvelle traduction du portrait de Dorian Gray. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une émission en deux parties. Pour achever cette série, je recevrai en deuxième partie l'angliciste Pascal Akien de l'université Paris-Sorbonne. Il viendra lire et commenter des textes de son choix à l'occasion du lancement de son MOOC sur l'auteur irlandais. Mais nous commençons cette émission en parlant du théâtre. Alain Jumeau est mon invité, il est professeur émérite de littérature et de civilisation britannique du 19e siècle et il a préfacé pour les éditions Folio Gallimard la pièce Un mari idéal d'Oscar Wilde. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Je suis en ce moment la seule personne de quelque importance à Londres qui porte une fleur à la boutonnière. Oui, monseigneur, je l'ai remarqué. Voyez-vous, Phipps, la mode, c'est ce que l'on porte soi-même. Ce qui n'est pas à la mode, c'est ce que portent les autres. Oui, monseigneur. Tout comme la vulgarité est simplement la façon dont les autres se comportent. Oui, monseigneur. Tout comme les mensonges sont les vérités des autres. Oui, monseigneur. Les autres sont vraiment épouvantables. La seule compagnie acceptable, c'est soi-même.
Bonjour Alain Jumeau.
Bonjour.
C'était donc un extrait de la pièce Un mari idéal que vous avez préfacée. Nous allons en parler longuement aujourd'hui, mais avant cela, peut-être peut-on la mettre en comparaison avec l'autre grande pièce d'Oscar Wilde, L'importance d'être constant. Les deux vous semblent-elles liées d'une manière ou d'une autre? On sait qu'elles ont été données en même temps à Londres.
Oui, effectivement, c'est le lien principal. Il a écrit quatre comédies légères et il se trouve que les deux dernières, qui sont peut-être les plus intéressantes, ont été lancées en même temps. La première du mari idéal correspond au début de l'année 1895, le 3 janvier, si j'ai bonne mémoire. Quant à l'importance d'être constant, il faut attendre juste quelques semaines de plus pour assister à la première. Elle a lieu, ça c'est facile à retenir, le 14 février 95, jour de la Saint-Valentin, ce qui n'est pas tout à fait un hasard. Et alors il faut se rendre compte qu'il y a un concours de circonstances extraordinaire. Vous avez un auteur à succès qui a la chance d'avoir deux pièces jouées simultanément dans des grands théâtres du West End londonien. À ma connaissance, il y a très très peu d'auteurs qui ont réussi cet exploit, mais Wilde étant un homme de théâtre particulièrement brillant, a réussi à avoir ces deux pièces simultanément.
Mais elles sont assez distinctes, ces deux pièces. Est-ce que vous pensez que quand on allait voir du théâtre à cette époque-là à Londres, on allait voir les deux, ou finalement il y avait un public un petit peu différent pour l'une et pour l'autre?
Je suppose que les gens qui sont allés voir la première des deux, c'est-à-dire Un mari idéal, ont été conquis. La réputation de Wilde était déjà faite. Et ils ont, pour un certain nombre, eu l'idée d'aller voir l'autre pièce pour faire des comparaisons, s'apercevoir si c'était toujours leur Wilde préféré. Et ils n'ont pas été déçus parce que la deuxième est très bonne aussi.
Alors, Un mari idéal, c'est une pièce assez politique, en fin de compte, mais où on trouve le même jeu de l'esprit, le même goût du paradoxe et la même fantaisie comique qui caractérise partout ailleurs la littérature d'Oscar Wilde. Diriez-vous que c'est avant tout une pièce comique ou avant tout une pièce un peu politique ?
Alors, justement, ce qui fait la différence par rapport à l'autre pièce, Constant, c'est que vous avez beaucoup de jeux, beaucoup de liberté, beaucoup de comédie, un festival verbal, mais vous avez une dimension politique qui ne peut pas échapper. Et je dois dire que c'est quelque chose d'unique dans le théâtre, la comédie légère de Wilde. C'est la seule pièce qui est justement des références à une actualité scandaleuse, une actualité politique scandaleuse. Et on pourrait imaginer qu'il y a là matière à une pièce à la manière de George Bernard Shaw, qui lui s'attaquait à des sujets sérieux, critique sociale.
Donc vous pensez que là, Wilde, en développant le thème du scandale politique et financier autour des affaires des différents canaux qui sont creusés à ce moment-là, canal de Panama, canal oui. de Suez, une question de délit d'initié aussi qui est oui. au cœur de cette pièce, vous pensez que là, Wilde engageait une veine plus sérieuse qui peut-être a été bloqué par le fait qu'il a été emprisonné cette même année.
Bon, je crois qu'on peut faire abstraction quand on lit la pièce pour la première fois ou qu'on la voit représentée. Je crois qu'il faut faire abstraction de ce qui a suivi dans la biographie. On prend la pièce telle qu'elle et on s'aperçoit qu'il y a cette dimension politique très très nette à la chose, donc je répète. Mais en fait, ce qui triomphe, c'est la comédie, c'est la légèreté. J'ai l'impression que c'est une pièce où il s'amuse, il nous amuse, mais il s'amuse le premier. Et c'est comme s'il nous disait, je pourrais faire une pièce qui ait cette dimension, qui ait cette direction. J'ai tous les ingrédients, je vais les faire jouer. Mais en fait, ça n'a qu'un temps dans l'intrigue. Et très vite, triomphe le jeu verbal, le feu d'artifice des paradoxes, l'esprit, l'humour, et on s'aperçoit qu'on est vraiment dans la comédie, et la dimension sérieuse est là, mais elle est occultée.
Oui, mais c'est une comédie qui est une comédie satirique, c'est Tout une à comédie fait. Qui est tournée contre une certaine forme d'hypocrisie anglaise et française aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui représentent l'affairisme français aussi dans cette pièce-là.
Tout à fait. J'ai l'impression que il est parti en guerre, là encore, parce qu'on retrouve ça dans plusieurs de ses œuvres, on va le retrouver dans la dernière comédie, il est parti en guerre contre la morale victorienne, contre l'hypocrisie victorienne. Il s'attaque ici tout particulièrement au fait qu'un homme politique brillant, promis une très très belle carrière, et qui n'a que 40 ans, qui a très bien réussi, qui est très riche, qui a une femme charmante, qui l'adore, qui le considère comme un mari idéal, cet homme, en fait, a un passé trouble.
Pour y arriver, il a dû se compromettre,
tout à fait. Et c'est ce que la pièce, tout à fait satirique, vous l'avez dit, s'efforce de démontrer. Mais en même temps, on n'en reste pas tout à fait là. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette dimension satirique rejoint un certain nombre de d'œuvres littéraires de l'époque.
Comme par exemple, Shaw encore.
Shaw, si vous voulez, bien sûr. Alors, moi, personnellement, étant donné que je m'intéresse aux romanciers victoriens, et notamment à un certain Anthony Trollope, qui a écrit 47 romans assez brillants, souvent, son chef-d'œuvre, peut-être, c'est Quelle époque ? qui est une satire en règle contre le culte de l'argent, la corruption.
La finance.
La finance. Dans ce roman, vous avez quelque chose d'assez comparable. C'est un roman qui précède de 20 ans. Il a été publié en 75. Dans ce roman, vous avez des personnages qui s'affairent dans une compagnie ferroviaire en Amérique pour construire un chemin de fer allant au Mexique. Ça ne tient pas, ça ne marche pas, parce qu'il n'y a que des montagnes sur le chemin. Simplement, derrière, il y a une entreprise financière avec un personnage de banquier véreux qui vient d'Europe centrale. Bon. Et il m'a semblé qu'on retrouvait un petit peu de cela dans ce fameux canal argentin qui ne peut pas exister.
Mais il y a peut-être aussi un petit peu d'auto-ironie parce que la manière dont il se moque de la bonne société aussi, c'est ça, hein, de la conversation aussi dans les salons, dans les cocktails, c'est au fond la société quand même qu'il fréquente, Oscar Wilde. Donc on a du mal à savoir exactement où l'auteur se place par rapport à ses personnages. À la fois il les juge et puis à la fois il est proche d'eux.
Non seulement il est proche d'eux, mais il s'est efforcé pendant sa carrière mondaine à Londres, de fréquenter la meilleure société. Donc, lorsqu'il s'attaque à ces gens-là, il s'attaque au monde dans lequel il vit.
Oui. Alors, quand il fait dire à Robert Chiltern, donc l'homme politique très lancé, qui a 40 ans, « Tôt ou tard, dans la vie politique, il faut faire des compromis, tout le monde en fait », il dit ça à sa femme. Est-ce que vous croyez que Oscar Wilde, qui lui n'aura finalement pas fait de compromis dans sa vie, ou assez peu, est-ce que vous croyez qu'il le juge, ou est-ce que vous croyez que, quand même, il comprend cette idée qu'il faut faire des compromis, et que d'une certaine manière, il y adhère, puisque lui-même fait partie de ce monde où on fait des compromis ?
Tout à fait. Non, je pense que là, il utilise le langage réaliste. Pas de vie sans compromis, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, tout en fustigeant cette société qui est en grande partie corrompue, il y appartient, mais il reste à l'extérieur. C'est sa position étrange, singulière, d'Irlandais à Londres.
Eh bien, monsieur, que faites-vous ici? Vous gaspillez votre vie comme d'habitude. Vous devriez être au lit, monsieur. Vous vous couchez trop tard. J'ai entendu dire que l'autre nuit, chez Lady Rufford, vous avez dansé jusqu'à 4 heures du matin. Seulement jusqu'à 4 heures moins le quart, mon père. Je ne comprends pas comment vous supportez la bonne société londonienne. Elle court totalement à sa ruine. Ce n'est plus qu'une foule de rien du tout qui ne parle de rien. J'adore parler de rien, père. C'est le seul domaine où je connais un peu quelque chose. Vous me paraissez vivre entièrement pour le plaisir. Pourquoi d'autre peut-on vivre, père? Rien ne fait plus vieillir que le bonheur. Vous êtes sans cœur, monsieur, tout à fait sans cœur. Oh, j'espère que non, mon père.
Un extrait donc d'Un mari idéal, lu et interprété par Guillaume Gallienne, qui vous fait rire, Alain Jumeau, il faut insister là-dessus. Tout est dit chez Wilde sur le mode de l'humour.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela qu'il a un tel succès dans son pays, dans les pays de langue anglaise en général, et aussi chez nous, parce que sa pièce a connu un très très beau succès. Elle est peut-être moins jouée que la dernière, L'importance d'être constant. Je me suis laissé dire par un spécialiste du théâtre à Londres que c'était la pièce la plus jouée du répertoire et la pièce surtout la plus vendue au public.
C'est-à-dire qu'elle peut être à la fois jouée dans les théâtres privés et dans les théâtres publics, pour reprendre cette distinction un petit peu artificielle.
Oui, vous avez tout à fait raison, mais je crois que ça va encore plus loin, parce qu'en Angleterre, on joue la pièce littéralement partout, y compris dans les patronages, quand on initie les jeunes à la comédie. Pourquoi ne pas prendre quelques très belles scènes du théâtre de Wilde ?
Alors, il faut dire qu'il y a des personnages assez extraordinaires, et notamment le personnage de Mrs. Chevelet, qui est une femme qui est une roturière dans ce monde d'aristocrates, mais qui néanmoins va se permettre de faire chanter le baron Sir Robert Chiltern, puis ensuite le vicomte de Goring. Qu'est-ce qu'elle représente, cette personnage de femme pour vous, dans la pièce Alain Jumeau?
Alors, si on se place du point de vue de la représentation théâtrale, je pense que l'actrice qui incarne le personnage de Mrs. Chevelley est vraiment le pivot de la pièce. Ça n'est pas un hasard si, lorsque vous regardez la distribution de grandes représentations ou les adaptations au cinéma, vous trouvez toujours de très grandes actrices. En France, lorsque la pièce a été jouée 2 ans de suite, c'est Annie Dupéré qui a incarné le personnage. Bon. Il faut savoir que la pièce a été très très bien reçue, a obtenu des Oscars, et Annie Dupéré, la première, hein, pour son personnage féminin inoubliable. Que représente-t-elle maintenant à l'intérieur de la pièce?
Et pourquoi est-elle si importante?
Et pourquoi est-elle...
Oui. Faut que ce soit de grandes actrices qui l'incarnent.
Oui, absolument. Parce que c'est un personnage à part, c'est un personnage qui vient de l'ailleurs, et d'un ailleurs douteux, trouble. Je vous rappelle qu'elle a été mariée 2 fois, sans compter les aventures multiples.
Et là, il peut y avoir une forme d'identification de Wilde, qui aime bien les personnages troubles.
Tout à fait. Elle est ce que le mélodrame victorien appelle la femme avec un passé. Or, il se trouve que Wilde fait encore plus fort dans cette pièce, puisqu'il nous donne une femme ayant un passé, mais aussi un homme ayant un passé. Et la première fait chanter le second. C'est assez habile. Hein,
c'est toujours sur le passé qu'on fait
forcément
chanter les
forcément
gens. Autre chose peut-être avec ce personnage de Mrs. Chevelley, c'est que c'est une femme. Et cette femme, elle a du pouvoir sur des hommes qui sont des hommes très puissants.
Tout à fait. Il faut voir qu'au départ, elle est roturière. Et elle s'attaque à du très gros gibier. Elle s'attaque à l'aristocratie. Elle s'attaque à des gens très riches. Elle a été la maîtresse du baron Arnheim, un spéculateur autrichien. C'est d'ailleurs le lien qui l'a conduit ensuite au chantage et à sa victime de Sir Robert Chiltern.
Oui, qui est un personnage assez peu recommandable d'ailleurs, car c'est lui qui va faire que Robert Chiltern va au fond faire ce délit d'initié. C'est sur son... une introduction finalement que il va briser finalement son intégrité et c'est
oui.
En brisant cette intégrité qu'il va évidemment monter dans l'échelle de la société.
Oui, exact. Donc pour en revenir à cette femme, Mrs. Chevelley, elle représente très clairement une menace pour les personnages de la pièce, mais plus généralement une menace sociale. Vous avez un ordre patriarcal qui est représenté par Lord Caversham, qui est quelqu'un qui porte la jarretière. C'est quand même quelqu'un tout à fait distingué dans l'aristocratie anglaise. Il se trouve que Mrs. Chevelley attaque ce pouvoir patriarcal et elle représente une véritable menace.
Oui. Alors, il y a une autre femme qui est intéressante aussi dans la pièce, c'est évidemment la femme de Sir Robert Chiltern, parce que elle, pour le coup, elle est une représentante de la droiture.
Tout à fait, et elle reconnaît à la fin, dans ces moments d'ouverture, de prise de conscience, elle reconnaît que elle s'est trompée en plaçant son mari sur un piédestal.
Parce qu'elle ne peut pas imaginer que son mari ait fait quoi que ce soit de répréhensible pour arriver là où il est.
Absolument, absolument. Et dans la mesure où elle découvre qu'elle-même n'est pas irréprochable, parce qu'elle a envoyé ce billet compromettant sur du papier rose à son ami Lord Goring. Elle n'est pas allée au rendez-vous qu'elle avait fixé, mais elle en avait l'intention. Dans la mesure où elle prend conscience qu'elle-même s'est conduite de manière un peu irréfléchie. Elle se dit que l'appel de son mari au compromis a du sens.
Donc c'est une leçon de vie alors.
C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie parce que au départ, on peut imaginer qu'elle représente une morale rigide qui n'accepte pas la faute. Et puis dans la mesure où elle-même se sent un petit peu fragile vers la fin, elle en arrive à accepter et donc transiger.
Et nous parlons du théâtre de Wilde avec Alain Jumeau dans la compagnie des auteurs et singulièrement d'une pièce en particulier, Un mari idéal. On a parlé de certains personnages, Alain Jumeau, mais peut-être que le personnage le plus important, c'est le langage, de Wilde.
Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. C'est ce qui triomphe dans la pièce et c'est ce qui triomphe dans les autres pièces de Wilde et qui va encore triompher dans la dernière. Bon, je dirais que dans le théâtre, Wilde trouve un moyen d'expression qui est vraiment fait pour lui. Il avait imaginé une carrière littéraire complète. La poésie, il a d'ailleurs commencé par là. La fiction, c'est lui l'auteur d'un très grand roman. Et puis le théâtre, il y est arrivé petit à petit avec des pièces qui n'ont pas eu de succès au début, avant qu'il découvre la comédie légère. Et là, il était vraiment dans son élément et il pouvait reprendre tout ce qui avait fait sa célébrité mondaine, c'est-à-dire les mots d'esprit, les paradoxes. Et cela triomphe dans la pièce.
Et vous allez même plus loin, Alain Jumeau, parce que le langage vous semble tellement important chez Wilde que vous ne vous concentrez que sur l'analyse du langage pour en conclure que c'est presque un théâtre de l'absurde que nous propose Oscar Wilde.
J'espère ne pas faire d'équation trop brutale dans mes propos. Disons que c'est un théâtre qui tend vers cela. Il faut quand même se rappeler que nous sommes encore à la fin du 19e siècle.
Justement, c'est là où ça en fait un visionnaire.
Mais il voit plus loin. Et je crois que souvent, il annonce un autre Irlandais, comme par hasard, Beckett. Son théâtre de l'absurde, ça triomphe dans l'importance d'être constant.
Oui, à quoi vous le voyez, ce théâtre de l'absurde? En quoi est-ce qu'il émerge déjà dans les pièces de Wilde?
Dans la mesure où les personnages, par exemple, prennent au sérieux les paradoxes. Vous avez un dialogue qui a été lu tout à l'heure avec le père et le fils à propos des paradoxes. Ce dialogue se poursuit d'ailleurs, ça va très très loin. Le paradoxe, c'est le plaisir de Wilde. C'est une manière de mettre les choses à l'envers. Et il y a des échos dans le texte même. Vous avez ce personnage qui est tout à fait savoureux de la jeune fille sentimentale et amoureuse, Mabel Chiltern, la sœur de Lord Chiltern. Elle s'amuse à un moment. Elle dit qu'elle est pressée, elle doit se rendre à quelque chose de très très important, et on découvre que c'est futile, elle va préparer des tableaux vivants, c'est-à-dire des charades, où elle se met en scène. On retrouve l'idée de théâtre. Bon. Et puis, elle explique que dans ce tableau vivant, elle doit jouer un rôle où elle fait le poirier. Pour une jeune fille victorienne, c'est un peu inattendu, il faut le dire. Bon. Mais faire le poirier, c'est voir le monde à l'envers. Et c'est nous préparer à entrer dans un monde qui n'est pas notre monde tout à fait. On retrouve notre monde, mais on le voit différemment. Et ça, c'est très amusant.
Et puis, c'est un jeu peut-être aussi, Alain Jumeau, avec l'intrigue elle-même. Wilde n'a pas peur, par exemple, de tourner le dos à la vraisemblance, de montrer sur scène l'invraisemblable, sans que ça choque particulièrement.
Oui, oui. Et en cela, je crois qu'il est, encore une fois, très moderne.
Là aussi, vous avez un exemple, peut-être ?
Oh, il y en a beaucoup, mais je vais en choisir un. C'est les accessoires. Il y a l'accessoire qui va confondre Mrs. Chevelley. Elle a volé par le passé. Elle a volé un bijou très très précieux. Et il se trouve qu'elle l'a perdu. Elle vient le rechercher et ce bijou tombe entre les mains de Lord Goring. L'attrapeur est attrapé. L'arroseur est arrosé et c'est Lord Goring qui va se servir de ce bijou pour confondre Mrs. Chevelley et lui montrer qu'elle est une voleuse, que tout le monde le sait. Et ce bijou, qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. C'est théoriquement une broche, mais c'est aussi un bracelet. Vous imaginez? Une broche bracelet, c'est un peu difficile à concevoir. Bon, il se trouve que ce bracelet lui emprisonne le poignet, joue le rôle de menotte. Alors, il est évident que Wilde se moque des accessoires et nous invite à nous en moquer. Et d'autre part, il y a la fameuse scène qui est admirable, qui a évidemment des correspondances chez nous dans le théâtre de Feydeau. C'est une véritable horlogerie scénique où vous avez des personnages qui sortent d'une pièce, qui rentrent dans l'autre, etc. Et nous ne sommes pas obligés d'y croire.
Dernière chose, elle a un jumeau qui jette peut-être une ombre sur cette pièce. C'est la façon dont le dandy, le personnage du dandy, est au fond quelqu'un d'assez conformiste. Et notamment quand il dit que la vie d'un homme a plus de valeur que la vie d'une femme. Comment vous comprenez que Oscar Wilde puisse dire une chose pareille ou alors le faire dire à ses personnages? Il ne faut évidemment pas confondre l'auteur et ses personnages, mais on le sent assez proche du personnage qui a cette réplique-là en particulier, dont le nom m'échappe tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais c'est tout à fait exact. C'est fâcheux d'entendre un tel discours machiste de la part de quelqu'un qui avait du respect pour les femmes et une certaine compréhension pour le féminisme.
Et qui dit dans la même pièce que les femmes, s'émancipent, luttent contre le patriarcat. Alors c'est un peu bizarre, peut-être qu'on la comprend mal aussi, cette réplique-là.
Alors, c'est possible. Mais il y aurait une autre explication qui nous est fournie par un critique, un certain Norbert Cole, qui prétend que Wilde est un rebelle conformiste.
Oui, c'est ça.
Une sorte de paradoxe, là encore. Hein.
C'est quoi un rebelle conformiste?
C'est un oxymore.
On peut être les deux à la fois.
Si je puis employer un terme pédant. C'est un oxymore, ça n'existe pas. Mais lui réussit à faire cette fusion des contraires dans son attitude.
Alain Jumeau, vous restez avec nous. Dans un instant, nous allons accueillir Pascal Akin de l'Université Paris-Sorbonne, auteur du premier MOOC francophone sur Oscar Wilde, qui sera justement lancé dès ce soir à 19h30 à l'amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, avec la lecture de textes de Wilde par Daniel Mesguich. Et c'est donc en avant-première que Pascal Akin va venir lire et commenter un certain nombre de textes de l'écrivain irlandais. Mais avant cela, je vous présente Alain Jumeau, Grégoire Leménager de l'Obs pour En compagnie des revues. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une sorte d'anti-Oscar Wilde. Il s'appelle James Patterson et c'est l'écrivain le plus riche du monde.
Bah oui, effectivement, il écrit en anglais comme Oscar Wilde, mais c'est vrai que c'est à peu près son seul point commun. Donc je m'excuse de... Je vous prie de m'excuser par avance de vous parler de ce monsieur. Mais il se trouve qu'il est l'écrivain le plus riche du monde. Alors, il y a mon camarade David Caviglioli qui a réussi à lui poser quelques questions et qui fait son portrait dans l'Obs qui sort aujourd'hui. Et je dois dire que c'est assez passionnant. Donc, vous l'avez déjà lu, James Patterson, bien sûr?
Alors, non, malheureusement, non. En fait, je l'ai découvert grâce à l'article de David.
D'accord. Bon, vous êtes comme moi. Alors, donc, il a quand même publié à peu près 160 livres, ce monsieur. Il est né en 47. Il n'est pas si âgé que ça. Il en publie quelquefois jusqu'à une vingtaine par an.
Donc plus d'un par mois quand même.
Ouais. Mm-hmm. Il a une force de frappe assez incroyable. Et à l'arrivée, ça lui réussit plutôt bien. Parce que je crois que c'est Malraux qui disait au-delà de 20 000 exemplaires, tout succès est un malentendu. Là, il n'y a pas de malentendu du tout. À l'arrivée, il gagne 95 millions de dollars par an. Et selon le magazine Forbes, il se classe troisième parmi les célébrités les plus payées. Alors, toutes disciplines confondues. Hein, le type, il est devant. Il gagne plus que Lionel Messi. Il gagne plus que Tom Cruise. Il gagne plus que Madonna. Il gagne beaucoup, beaucoup plus que J.K. Rowling ou John Grisham.
Et l'avantage qu'il a, c'est que personne ne l'embête dans la rue parce que personne ne le connaît.
Oui,
très peu de gens savent que le reconnaître.
Oui, je crois qu'il vit assez planqué. Il a une grande maison, apparemment, en Floride, je crois.
D'un luxe ridicule, dit-il lui-même.
Oui, il dit que c'est une baraque plutôt antipathique, mais bon, elle lui a coûté 17 millions de dollars plus 14 millions de travaux, donc ça doit être assez volumineux quand même. Il est en face de l'océan, il est là. Et de cet endroit, il dirige absolument tout. Donc il s'occupe de tout. Les jaquettes de ses livres, les réseaux de distribution, les dates de parution. Il contrôle le placement de ses livres dans les présentoirs des supermarchés. Enfin, il surveille absolument tout. Et lui, il a commencé dans la pub et il a appliqué les recettes de la pub et du marketing à la littérature. Il a eu des velléités d'écrivain au départ. Hein. Il explique que...
Et ça marchait pas, évidemment. Parce que ça ne se vend pas quand on essaie d'écrire un livre.
Voilà, lui, il avait lu Joyce et Jean Genet quand même. Après, il a eu une révélation en lisant le Chacal. Il s'est dit que cela, il pouvait faire la même chose parce que Joyce et Genet, ça lui semblait un peu hors de portée. Il a commencé par publier des romans, mais il se rend compte maintenant qu'il recherchait beaucoup plus les compliments que le succès. Donc c'était une erreur absolue. Et désormais, il applique ses recettes du marketing. Donc il étudie, ça, David Caviglioli l'explique très bien. Notamment pour sa série Alex Cross qui est un de ses gros succès. Il étudie le marché, donc il repère les régions des États-Unis où on est plus friand de thrillers qu'ailleurs, et du coup il met le paquet sur ces zones-là.
Les intrigues aussi à San Francisco, parce qu'il a repéré qu'à San Francisco on lisait beaucoup de polars.
Oui, et puis du coup il prend le contre-pied de John Grisham qui lui a beaucoup de lecteurs sur la côte est. Du coup lui il se rend compte que sur la côte ouest il y a peut-être un marché à prendre et il y va. Alors je vous rassure, il écrit pas tout seul. Parce que 20 livres par an, ce serait quand même beaucoup. Mais il emploie des gens. Ah. Donc il emploie une vingtaine, il salarie aujourd'hui à peu près une vingtaine d'écrivains. Tout ça est fait dans la transparence la plus complète, hein, parce que les livres, il les co-signe à l'arrivée. Mais là encore, il utilise très bien les techniques du marketing. Il s'est rendu compte qu'en Scandinavie, ses ventes n'étaient pas au maximum de ce qu'elles pouvaient être. Et du coup, il a embauché une romancière suédoise, une suédoise pour co-écrire certains livres. À tous ces gens, il envoie un synopsis de 80 pages, dit-il. Il les fait travailler. Il dirige toute sa petite entreprise comme ça.
Un peu comme Willy, le mari de Colette, le faisait avec Colette et d'autres qui écrivaient à la chaîne un certain nombre de livres qui étaient peut-être meilleurs quand même que ceux-là.
Un peu comme Maurice Druon, un peu comme Gérard de Villiers, un peu comme Alexandre Dumas, un peu comme beaucoup de gens, sauf que là, c'est vraiment industriel. Et encore une fois, il y a cette espèce de transparence, c'est-à-dire qu'il n'emploie pas des ghostwriters, il n'emploie pas des nègres, il a des employés et il co-signe les livres avec eux.
Quand même, Grégoire Leménager, oui. On peut faire quelques objections au sarcasme que je sens poindre derrière
votre... Pas du tout,
je suis
très admiratif. Et, enfin, David Caviglioli est très admiratif de la grande œuvre de Patterson qui a converti le roman américain aux techniques du mass marketing, je le cite.
Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement, Patterson dit oui, mais les designers, vous ne leur demandez pas de fabriquer les meubles, c'est pas eux qui les fabriquent, on donne juste l'idée. Il dit aussi que c'est la même chose pour les scénaristes. Et puis il dit, moi, je fais lire les gens, c'est-à-dire que à une époque où ce sont les écrans qui dominent, mes livres se vendent et donc les gens, les lecteurs perdurent d'une certaine façon.
Il y a ça qui le rend assez attachant, c'est qu'apparemment il se donne vraiment du mal et il investit vraiment de l'argent pour aider ce qui reste de librairies indépendantes aux États-Unis et sans doute ailleurs, alors même que ses livres, il les vend pas dans les librairies, hein, il les vend sur les sites marchands et dans les aéroports.
E-book aussi, oui.
Et voilà. Et puis, ce sont des livres à 5 euros ou à 5 dollars qui doivent être assez minces, dans lesquels il y a une intrigue et c'est tout. Et voilà. Donc ça le rend assez attachant. Bon, après l'article se conclut de façon assez féroce là-dessus, c'est que malheureusement. Malheureusement, ces livres ont l'air très très nuls, quoi. C'est-à-dire que, donc là, il y en a un qui sort en France, hein, qui s'appelle 14e péché mortel, que je vous invite pas forcément à lire, si j'en crois mon camarade, c'est, il écrit, oui, à lire 14e péché mortel, on est tout de même gêné par sa nullité qui a réussi à nous surprendre alors qu'on s'attendait déjà à quelque chose de très médiocre. Et il se demande si finalement cette démarche industrielle, elle est pas plus méprisante que le snobisme clanique des grands lettrés, puisqu'avec ses clichés, sa superficialité, son manichéisme moral et ses effets de suspense grossiers, le texte ne fait que singer la télévision dans ce qu'elle produit de pire et aggraver la soumission au code narratif dominant de ceux qui sont le plus exposés.
Merci beaucoup Grégoire Leménager. Pour en savoir plus sur James Patterson et retrouver toutes les critiques de l'Obs, rendez-vous dès aujourd'hui en kiosque. Dernier moment de cette série de la Compagnie des auteurs consacrée à Oscar Wilde, un moment de retour au texte et même de commentaire de texte avec l'angliciste Pascal Acquien, juste après ce dernier clin d'œil à Un mari idéal.
Je ne crois pas que j'aime vraiment cette fleur, Phipps. Elle me vieillit un peu. On dirait presque que je suis dans la force de l'âge, n'est-ce pas, Phipps? Je ne remarque aucun changement dans l'apparence de votre seigneurie. Aucun, Phipps? Aucun, monseigneur. N'en suis pas tout à fait sûr. À l'avenir, Phipps, trouvez-moi une fleur plus frivole pour le jeudi soir.
Bonjour Pascal Acquien.
Bonjour.
Alors porterez-vous une fleur frivole tout à l'heure, puisque nous sommes jeudi et que vous présentez votre MOOC à l'Université de la Sorbonne. Vous avez une espèce de fleur un peu frivole quand même dans votre poche.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une pochette mauve et c'est une couleur que Wilde aimait beaucoup. Et il a fait beaucoup de commentaires sur le mauve, hein, et qui est une couleur qui pouvait de temps en temps susciter même une certaine ironie, hein, puisqu'il dit qu'il ne faut pas faire confiance à une femme qui porte du mauve. Hein.
Mais un homme, on peut, évidemment.
Un homme, on peut. Donc, c'est pour ça que j'en porte. Donc, vous pouvez me faire confiance.
Donc, les auditeurs qui veulent venir vérifier la couleur de votre pochette ce soir à la Sorbonne, c'est à 19h30. Il faut rentrer au 17 rue de la Sorbonne. Oui. C'est dans l'amphi Richelieu.
C'est dans l'amphi Richelieu, en effet.
Et il faut réserver d'abord.
Il faut réserver d'abord.
Sur paris-sorbonne.fr/MOOC. Alors, ce MOOC, qui est le premier MOOC en langue française sur Oscar Wilde, vous pouvez nous dire peut-être un petit peu de quoi il s'agit. Je rappelle qu'un MOOC, c'est un cours en ligne à destination de qui, justement?
Alors, c'est en effet un cours en ligne qui, cependant, n'est pas du tout un cours filmé dans un amphithéâtre. Donc, ce n'est pas un professeur derrière un bureau qui est filmé de manière, un peu sinistre.
Hein. Ça ne ressemble pas à des journaux. En pour,
ça ne ressemble pas aux journaux télévisés de la Pologne dans les années 70. Donc, c'est quand même un peu plus vivant que ça. Et c'est très scénarisé, en fait. Donc, les lieux de tournage sont très divers. Hein. Donc, il peut y avoir la Sorbonne, mais il peut y avoir des salons, il peut y avoir des jardins. Il y a, bien sûr, le cimetière du Père-Lachaise. Toutes sortes d'endroits, et c'est fait donc, enfin le tournage se fait avec une équipe de professionnels du tournage. Alors qu'est-ce que ce MOOC? Eh bien c'est une présentation le MOOC est intitulé d'ailleurs Oscar Wilde, écrivain et penseur du langage. Donc c'est un MOOC qui couvre la plus grande partie de l'œuvre de Wilde. Il est évident que c'est pas possible de tout traiter, mais enfin quand même pas mal de choses sont abordées. Il s'agit de, alors je m'adresse à un public très varié, enfin un petit peu comme le public de Tintin, de 7 à 77 ans. Donc on n'a pas besoin d'avoir une formation universitaire.
Vous pensez qu'à 7 ans on comprend bien Oscar Wilde?
Oui, je pense qu'on le comprend peut-être mieux, même que oui, parce qu'on est sensible à son imaginaire, je pense. L'imaginaire de ses contes, l'imaginaire et puis ses jeux avec les mots. Les enfants adorent jouer avec les mots, donc je pense qu'ils pourraient être sensibles à certaines choses, peut-être pas tout, mais quand même pas mal de choses. Donc un public très varié, pas nécessairement donc d'universitaires, ni de gens qui auront une formation particulière pour cela, puisqu'il s'agit d'ouvrir, bien sûr, l'œuvre de Wilde à qui veut. Donc le MOOC se fait en français, en effet, et je peux vous en dire un mot si vous voulez.
Oui, rapidement, voilà, avant de passer rapidement, à la lecture des textes.
Tout simplement parce que Wilde d'abord jouit d'une très très grande popularité dans ce pays, parce qu'il parlait parfaitement le français, parce qu'il a vécu, il a passé de très très nombreux moments à Paris, il a connu énormément d'écrivains français, enfin il était très très proche de beaucoup de gens, il a quand même fréquenté les Mardi de Mallarmé, il a connu Verlaine, il a connu André Gide, il a connu beaucoup de gens. Et puis, il a passé les dernières années de sa vie à Paris, où il est mort, comme on sait, au cimetière du Père Lachaise. Et enfin, il a écrit Salomé en français. Donc, c'est un peu un écrivain français. D'ailleurs, il rêvait de voir Salomé donner sur la scène du théâtre français, ce qui ne s'est pas fait. Mais il avait, en quelque sorte, le désir de devenir un écrivain français. Il disait en plus que le français, avec le grec ancien, étaient les plus belles langues qui soient.
Alors parmi les extraits que vous avez sélectionnés, Pascal Aquin, il n'y a pas Salomé, mais en revanche il y a, pour commencer, l'incipit du fameux roman, et unique d'ailleurs, Le portrait de Dorian Gray. On vous écoute.
Juste un mot de présentation très rapide de ce texte. Il s'agit, comme vous venez de le dire, de l'incipit, et il s'agit de la description d'un atelier. Donc l'atelier qui est évoqué au début est un atelier de peintre, l'atelier dans lequel se trouve le fameux portrait. La riche senteur des roses emplissait l'atelier, et lorsque la brise d'été agitait les arbres du jardin, les lourds effluves du lilas, ou la fragrance plus subtile de l'épine rose, pénétraient par la porte ouverte. Depuis le coin du divan recouvert d'un tissu au motif persan, sur lequel il était étendu, fumant, comme à son habitude, cigarette sur cigarette, Lord Henry Wotton apercevait tout juste l'éclat d'un cytise aux fleurs couleur de miel, suaves comme le miel, dont les rameaux frémissants paraissaient à peine capables de porter le poids d'une beauté aussi flamboyante que la leur. Cependant que de temps à autre, les ombres fantastiques projetées par les oiseaux en vol s'inscrivaient un instant sur les longs rideaux de tussor tendus sur la fenêtre immense et créaient passagèrement une sorte d'effet japonais qui lui rappelait le visage blafard comme le jade de ces peintres de Tokyo qui, par l'intermédiaire d'un art nécessairement immobile, tentent de traduire le mouvement et la vitesse. Le murmure obstiné des abeilles cheminant lourdement parmi les hautes herbes qu'on n'avait pas encore tondues ou faisant des cercles monotones au-dessus des aigrettes dorées et poudreuses du chèvrefeuille qui poussait en tous sens semblait rendre le silence encore plus oppressant. Le grondement indistinct de Londres était comme le bourdon d'un orgue dans le lointain. Au centre de la pièce, fixé sur un chevalet droit, se dressait le portrait en pied d'un jeune homme d'une beauté extraordinaire. Et face à lui, à quelque distance, était assis l'artiste lui-même, Basil Hallward, dont la disparition subite, il y a quelques années, suscita dans l'opinion un tel émoi et fit naître de si étranges conjectures.
Alors je ne sais pas ce que vous allez nous dire de ce texte Pascal Aquin, mais ce qui frappe peut-être au premier abord, c'est la présence des sens, des senteurs, des sons, des ombres. Donc on est autant dans la vue que dans l'ouïe, que dans l'odorat.
Voilà, je crois que c'est un aspect effectivement très très important de ce texte, avec ses effets multiples de synesthésie, de rapprochement de tous les sens, lien également entre l'art et la réalité, puisque cette réalité-là qui est décrite n'est décrite que par le truchement, que par l'intermédiaire de l'art. C'est-à-dire que les rideaux sont tendus avec ces vols d'oiseaux qui sont qui créent des effets japonais. Donc pour mieux voir un réel qui pourrait être assez ordinaire comme celui d'un simple rideau, eh bien on passe obligatoirement par le truchement de l'art, puisque c'est l'art qui pour Wilde permet de voir le monde.
Donc l'art c'est la vie, c'est directement annoncer le thème de la fiction, fiction art artificielle disons, versus ce qu'on appellerait la vie telle qu'elle est. Et qui est souvent décevante.
Oui, pour autant, la vie, enfin, à proprement parler, intéressait aussi évidemment Wilde, mais ce qui me semble plus important, c'est l'idée que la perception du réel passe nécessairement par, en quelque sorte, une culture artistique. Et comme il le disait, les brouillards n'existaient pas avant que Turner, les Dupin. Autrement dit, pour voir de la brume, il faut d'abord avoir vu un tableau. Et ça ne veut pas dire que la brume n'existait pas. Ça veut dire simplement que pour la percevoir dans toute sa, dans tout le sens finalement qu'elle prend, il faut d'abord passer par l'intermédiaire du peintre, du regard du peintre, hein, qui donne à voir autrement et qui permet à soi-même, en tant que sujet, de voir autrement et mieux.
Est-ce que la présence des objets également vous interroge? Le divan fait de sel persane, les longs rideaux de Tussor, des objets qui sont très caractérisés. Cette attention aux objets, est-ce qu'elle signifie quelque chose selon vous?
Eh bien, il est évident qu'on est dans une forme d'orientalisme qui était tout à fait à la mode en cette période, enfin à la fin du 19e siècle. Donc le mot divan lui-même, bon, et puis les selles, les motifs persans, les tissus motifs persans, le Tussor, enfin qui est une soie d'une qualité particulière. Bon, on a l'effet japonais, on a l'évocation des peintres de Tokyo. Tout ça nous ramène à une espèce d'Orient qui est totalement esthétisé et qui vaut surtout en tant que scène esthétique.
Deuxième extrait, Pascal Akin, vous avez choisi le De Profundis. Pour quelle raison ?
J'ai choisi le De Profundis, du moins le début de De Profundis, qui est la lettre que Wilde a adressée à son jeune amant, Alfred Douglas, donc il appelle Bosie, comme on l'appelait dans sa famille. J'ai choisi ce texte parce que c'est un grand texte autobiographique dans lequel Wilde fait le point sur sa vie, sur son existence. C'est un texte qu'il a rédigé alors qu'il était en prison, qui a ensuite été publié d'abord sous une forme censurée parce qu'on craignait les procès de la famille du jeune homme. Maintenant, bien sûr, on dispose de la version définitive. Et c'est un texte qui est une prise de conscience, d'abord un bilan de sa propre vie, une prise de conscience de ce qu'a été cette relation avec ce jeune homme, et également, ce qui est peut-être encore plus intéressant, un texte dans lequel finalement, en dépit de tout ce qu'il a subi, il s'affirme quand même comme écrivain. Donc écrire cela, c'est dire malgré tout, j'écris, je suis un écrivain et rien ne m'a anéanti.
On vous écoute.
Prison de Sa Majesté, Reading. Cher Bosie, après une longue et vaine attente, j'ai décidé que ce serait moi qui t'écrirais, dans ton intérêt comme dans le mien, car je ne voudrais pas me dire que j'ai passé deux longues années en prison sans avoir jamais reçu de toi une seule ligne, ni même quelques nouvelles ou quelques messages, si ce n'est pour en éprouver de la peine. Notre amitié funeste et si lamentable a abouti pour moi au désastre et à l'indignité publique. Et pourtant, je pense souvent à notre ancienne affection, et l'idée que l'aversion, l'amertume et le mépris puissent jamais prendre en mon cœur la place qui tint jadis l'amour, m'attriste profondément. Et toi-même, je le crois, sentiras au fond de ton cœur que m'écrire, dans ma solitude de prisonnier, vaut mieux que publier mes lettres sans ma permission, ou me dédier des poèmes sans que je te l'aie demandé. Quand bien même le monde ne saurait rien des paroles de douleur ou de passion, de remords ou d'indifférence qu'il te plairait de décider de m'adresser en guise de réponse ou d'appel. Je ne doute pas un instant que dans cette lettre, où il me faut te parler de ta vie et de la mienne, du passé et de l'avenir, de douceur devenue amertume et d'amertume qui pourrait devenir joie, il y ait bien des choses qui blesseront au vif ta vanité. Et si ce doit être le cas, relis cette lettre plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle tue ta vanité. Si tu y trouves quelque chose dont tu croiras être accusé injustement, rappelle-toi qu'on doit se réjouir qu'il existe une faute dont on puisse être injustement accusé. S'il s'y trouvait un seul passage qui fit jaillir des larmes de tes yeux, pleure, comme nous pleurons en prison, en ces lieux où le jour, tout autant que la nuit, est fait pour pleurer. C'est la seule chose qui puisse te sauver.
Un mot de commentaire très rapide, et puis après on passera tout de suite au dernier texte, car l'heure tourne.
Un mot très rapide, comme vous avez pu constater, il est beaucoup question d'écriture, il est beaucoup question de lettres. Et d'emblée, on ne commence pas par une avalanche de reproches, mais on entre tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire écrire. Écrire des lettres, il évoque des lettres de lui qui auraient été publiées, que Bozzi voulait publier. Mais tout cela, finalement, tourne sans cesse autour de la question de l'écriture. Donc c'est une manière là aussi bien sûr de s'affirmer comme écrivain. La seconde chose que je pourrais dire, c'est que on voit bien qu'il y a d'emblée une certaine dimension religieuse, la vanité, donc vanité des vanités, tout cela apparaît, la passion, le mot passion, comme l'on pourrait prendre aussi de diverses manières, et tout cela annonce ce qui apparaîtra un peu plus tard dans la lettre, cette identification de Wilde au Christ, non pas une identification, disons, délirante, il ne se considérait pas lui, bien sûr, comme étant d'essence divine, mais simplement le Christ comme celui qui est allé jusqu'au bout d'un certain destin et entouré en outre pour lui d'une certaine dimension esthétique. Donc le Christ de Wilde qui est auquel il s'identifie, enfin le Christ auquel s'identifie Wilde plus exactement, c'est le Christ de Renan dans La Vie de Jésus, c'est-à-dire un Christ laïque, mais quelqu'un qui serait allé jusqu'au bout d'une expérience pour les hommes. Et cela apparaît à mon avis dès les premières lignes.
Allez, dernier extrait, rapidement, toujours la prison, c'est la ballade de la geôle de Reading.
Je vais vous lire le début de ce poème qui est la dernière œuvre de Wilde et qui est un poème absolument magnifique et à vrai dire le seul très grand poème qu'il ait écrit. Je laisse de côté bon, la Sphinge ou les poèmes en prose, mais les poèmes de jeunesse sont très pâles à côté de ce texte. Il n'avait plus sa tunique écarlate, car le sang et le vin sont rouges. Et du sang et du vin tachaient ses mains, quand près de la morte on le prit, la pauvre femme morte qu'il aimait et avait tuée dans son lit. Il marchait au milieu des prévenus dans son habit d'un gris râpé, coiffé d'une casquette de cricket. Son pas semblait léger et gai, mais jamais je n'ai vu homme scruter si pensivement la clarté. Jamais je n'ai vu un homme scruter avec des yeux aussi pensifs ce petit pan de tente bleue là-haut que les prisonniers nomment ciel et chaque nuage errant qui glissait avec sa voilure d'argent. J'allais avec d'autres âmes en peine et marchais dans un autre cercle, me demandant si l'homme avait commis une faute grave ou vénielle, quand une voix derrière chuchota « Sgala, il va être pendu !» D'où Christ ? Les murs même de la prison soudain semblèrent chanceler, et le ciel sur ma tête se changea en un brûlant casque d'acier. Et bien qu'aussi je fusse une âme en peine, ma peine je ne sentais plus. Je ne savais que la pensée furtive qui pressait son pas, et pourquoi il scrutait l'éblouissante clarté avec des yeux aussi pensifs. L'homme avait tué l'être qu'il aimait, et pour cela devait mourir. Pourtant, chaque homme tue l'être qu'il aime, que tous entendent ses paroles. Certains le font avec un regard dur, d'autres avec un mot flatteur. Le lâche, lui, tue avec un baiser, et le brave avec une épée. Certains tuent leur amour quand ils sont jeunes, d'autres quand ils sont déjà vieux. L'un étrangle avec les mains du désir, et l'autre avec les mains de l'or. Le plus charitable use d'un couteau, car le mort refroidit vite. Tel aime trop peu, trop longtemps, tel autre. Certains vendent, d'autres achètent. L'un commet son crime en versant des larmes, et l'autre sans même un soupir. Car si chaque homme tue l'être qu'il aime, chaque homme ne doit en mourir.
Merci beaucoup, Pascal Acquien. Nous allons entendre de nouveau des lectures, mais cette fois de poésie, et c'est Jacques Bonafé qui nous les propose.
Bonjour. Après la mort de Bouddha, l'on montra encore durant des siècles son ombre dans une caverne, une ombre immense et effrayante. Dieu est mort, mais l'espèce humaine est ainsi faite qu'il y aura peut-être encore, durant des millénaires, des cavernes au fond desquelles on montrera son ombre. Nietzsche, le philosophe Nietzsche, cité par Gérard Massé, dans Promesse, Tour et Prestige, au chapitre Prestige, absente de tout bouquet. L'encolie malade de la rime et de l'humeur noire que répand son nom dans nos esprits, mais l'encolie qui se sent chez elle dans le bleu vif et l'air froid des montagnes. La rose immense, la grande rose grise à quoi Claudel compare la mer, fleur toujours mouillée qui fait pâlir la rose bleue du jour et même la rose noire de la nuit. La fleur et le chant, la chair et la plume, éphémère parure de l'homme pour les Aztèques avant de rejoindre l'enfer des décharnés. Tulipe en turc, petit turban. Introuvable et pourtant bleu, la fleur de Novalis qui n'est plus réglée sur les saisons, emblème d'un au-delà qui ressemble à l'âge d'or, mais qui n'est plus tourné vers la vie avec ses vents mauvais, ses blessures et son renouveau. La rose funèbre de Rilke, le sommeil de personne sous des paupières innombrables. Entre les pages d'un même livre, les fleurs blanches de la mort et les fleurs rouges du sommeil. La prairie d'asphodèle qui fleurit en enfer, le champ de pavots qu'on traverse avant de s'endormir. Tulipe noire et dahlia bleu, dans une nature réformée par le rêve. Trois gouttes de sang sur la fleur de farine, entre le lit de la reine et le lit de Tristan. Sa blessure de la veille s'est remise à saigner quand il a enjambé l'espace entre les lits. La rose qui aurait le même parfum si elle portait un autre nom. Nourrie par la vase comme d'autres par le mal, la fleur du lotus qui flotte sur les eaux de la mer Noire, puis s'épanouit pour devenir le trône du ciel et l'ombilique des nuages. La pensée sauvage, une fleur artificielle dans le cerveau des civilisés. L'absente de tout bouquet, une fleur musicale qui naît du langage sur la page blanche fécondée par un faune. Dans « L'art sans parole » aux éditions Le Promeneur, on trouve cette histoire étrange, écrite par Gérard Massé. On raconte qu'un des tours favoris des illusionnistes dans l'Inde ancienne où ils jouissaient d'un grand prestige consistait à faire apparaître un arbre à partir du noyau d'un fruit, à faire grandir cet arbre en un clin d'œil, puis à lancer une corde aussitôt raide à laquelle grimpait un comparse qui disparaissait de la vue des spectateurs avant de lancer par terre, un par un, ses membres que le magicien rassemblait pour refaire un homme à partir de ce corps disloqué. Mes pensées, bien souvent, ressemblent à ces membres à disjecta, et quand elles sont sur le point de mourir, je rêve que par magie, elles s'assemblent dans un livre. Ce sont des livres de Gérard Massé, laissez-vous saisir, mais pas attraper. Massé, c'est Massé, M-A-C-E, auquel est dédié un colloque à Grenoble à la mi-novembre. Pour en savoir plus, regardez le site de l'émission.
Voilà, Jacques Bonafé qui lisait des textes de Gérard Massé. Merci à mes deux invités d'aujourd'hui, Alain Jumeau. Je rappelle que votre édition d'Un mari idéal est toujours disponible en folio Gallimard. Et Pascal Acquien, le MOOC que vous réalisez avec l'université Paris-Sorbonne a commencé le 26 octobre et propose 6 épisodes d'une heure par semaine jusqu'au 1er décembre. Tous les renseignements sont en ligne évidemment sur la page de l'émission, page sur laquelle vous pouvez aussi réécouter et podcaster l'épisode d'aujourd'hui ainsi que tous les précédents. Cette émission était réalisée par Christine Digère. À la console, il y avait Nicolas Slimani. Et à la préparation, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Mais tout de suite, voici qu'arrive Lord Martin pour la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de France Culture.